Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux L.
Bonjour à toutes et tous. Je vous avais dit la dernière fois que ce dimanche, je vous emmènerai en voyage. C'est vrai que ces dernières semaines, je vous emmenais en Nouvelle-Zélande et dans les forêts du monde. Et bien là, je vous emmène dans un autre pays. Mais un pays un peu ancien, avec une femme de tête et une femme de règne aussi, qui a quelques années. Je vous emmène dans l'Égypte ancienne avec un narrateur qui est coutumier du fait, qui adore ce pays, qui est égyptologue et romancier et qui nous raconte toujours l'Égypte de ses pharaons, absolument fabuleux et surtout extraordinaire, et bien souvent méconnu, peut-être parfois aussi. En tout cas, aujourd'hui, il nous revient avec un très beau livre, La femme d'or ou la vie miraculeuse d'Hatshepsout, aux éditions Ixo. J'ai de nouveau le plaisir, l'honneur et l'avantage de recevoir monsieur Christian Jacques. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nouveau mon invitation pour ces deux ailes pour Délivrez-vous. On vous retrouve, je disais, avec un nouveau livre sur la femme d'or, c'est la reine Hatshepsout, ça va être un petit peu dur, aux éditions Ixo. Alors, moi j'ai senti au travers de votre livre une réelle passion pour cette femme, on va le développer tout au long de l'entretien, une femme quand même extraordinaire, un peu hors du commun, mais j'ai senti de votre part un réel attachement à cette femme, à cette pharaon.
Oui, 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 alors ça n'est pas la première femme pharaon.
Non.
Puisque la première date de la première dynastie, ce qui veut dire d'ailleurs, c'est assez extraordinaire, puisque chez les anciens Égyptiens, on peut être pharaon homme ou pharaon femme, ça pose aucun problème.
Oui.
Ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui dans un certain nombre de nos démocraties, curieusement. Mais alors elle, évidemment, elle est très particulière parce que d'abord, elle a régné dans cette fameuse 18e dynastie, qui est celle des Toutankhamon, des Akhenaton, enfin, qui est une des plus connues de l'Égypte ancienne. Et puis, elle a régné tout de même 22 ans, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et elle nous a laissé des traces, des portraits, des récits, des bas-reliefs qui m'ont permis, évidemment, qui ont permis à l'égyptologue de donner au romancier beaucoup de substance.
Tout à fait. Alors, elle est devenue veuve, je crois, alors je ne vais pas dire de bêtises parce que c'est toujours des noms un petit peu compliqués, d'Amenophis II, c'est ça?
Alors, oui. C'est-à-dire qu'elle a... Pourquoi j'ai parlé de sa vie miraculeuse?
Oui.
Parce que d'abord, elle a un père extraordinaire.
Ouais.
Qui était un Toutmosis. Alors Toutmosis, ça veut simplement dire celui qui est né de Thoth. C'est une lignée de pharaons qui était très liée, on peut dire, à un idéal de sagesse. Ce sont des scribes, ce sont des savants.
Mm-hmm.
Et ce père l'a profondément marqué parce que il n'a pas vécu très vieux, mais il a fondé d'abord toute une dynastie. On peut presque dire qu'il a fondé toute une lignée. Et quand il est mort, ça a été pour elle quelque chose d'absolument épouvantable, mais elle a gardé en tête tout son enseignement. Et c'était pas rien. Et puis bon, bah, a priori, voilà, ce père disparaît, elle n'est pas du tout destinée
à
devenir ni reine ni pharaon. Et puis ben voilà, il y a effectivement un jeune homme qui tombe amoureux d'elle, et la voilà désignée grande épouse royale. Alors attention, en Égypte, c'est pas une first lady simplement. Elle s'occupe pas que, elle s'occupe pas que d'humanitaire.
Oui.
C'est très bien.
C'est très bien. Mais
voilà, elle a bien d'autres rôles et notamment un rôle diplomatique. En Égypte, il y avait une maison du roi et une maison de la reine, qui étaient deux institutions qui possédaient des champs, de très nombreux employés. Donc en fait, elle accède, c'est un personnage de l'État extrêmement important. Et puis, deuxième malheur, ou deuxième, enfin, on va parler de miracle, plutôt de malheur, ce mari meurt également très jeune.
Ouais.
Alors, normalement, il y a un jeune homme, enfin plutôt un petit garçon, qui s'appelle Toutmosis III, auquel j'ai d'ailleurs consacré un roman qui s'appelle Pharaon, parce que c'est un des plus grands rois d'Égypte. Mais il est tout jeune. Que se passe-t-il dans ces cas-là? Il est désigné, c'est un fait, mais il n'est pas en état de régner. Donc, Hatshepsout, alors son nom paraît un peu compliqué comme ça, mais ça veut dire la première des nobles.
La première des nobles,
celle qui est à la tête des êtres nobles. C'est un très beau nom. Et Bon, ben, classiquement, ça s'est passé beaucoup de fois dans l'histoire de l'Égypte ancienne. Le petit roi ne peut pas régner. Eh bien, c'est la reine devient régente. Elle devient régente du royaume. Et il y a un très beau texte qui nous explique qu'elle est à la fois un très bon câble d'avant et un très bon câble d'arrière pour le navire de l'État. Puisque on ne parlait pas de char de l'État, mais de navire de l'État. Et, bon, alors elle est régente, c'est tout à fait classique et normal. Et, et une fois que, que Thoutmôsis III sera suffisamment âgée pour régner, eh bien elle cède la place. Et c'est arrivé très, très souvent. Mais voilà, un nouveau miracle se produit. Nous sommes à Karnak, vous savez, dans cet immense temple du sud de l'Égypte. Bon, aujourd'hui, c'est la ville de Louxor, où il y a donc le temple de Karnak, le temple de Louxor. Et alors qu'elle dirige un rituel, le dieu Amon, qui est porté en procession par des ritualistes, s'incline devant elle. Et la désigne non plus comme reine, non plus comme régente, mais comme pharaon. Alors, ça, c'est un événement extraordinaire sur lequel tout le monde s'est penché pour connaître la date, savoir ce qui s'était passé, etc. Et pour la seule et unique fois de toute l'histoire d'Égypte pendant trois millénaires, nous allons avoir deux pharaons légitimes en même temps. Ce jeune Thoutmôsis III et Hatshepsut. Et il n'y aura entre eux aucun conflit. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. Aujourd'hui, on connaît bien les textes et les documents. Mais voilà, en fait, Hatshepsut associe à toutes les cérémonies officielles ce jeune garçon, mais elle est également pleinement régnante. Et alors là, il faut rappeler quelque chose qu'on oublie toujours, c'est quand on parle d'un pharaon, c'est-à-dire le terme égyptien d'ailleurs, veut dire la grande demeure, le grand temple, la grande maison. Et c'est donc un être qui est en fait double. Tout pharaon, c'est un homme et une femme. Sauf que lorsque une reine devient pharaon, enfin une femme devient pharaon, elle est déjà femme, bien sûr.
Mais elle devient homme.
Et elle devient homme. Voilà, les textes l'expliquent très clairement. Et vous avez d'ailleurs toutes ces représentations d'Hatshepsut où elle a la couronne, elle a le pagne masculin, elle a tous les emblèmes depuis l'ancien empire, tout en restant pleinement femme. On voit de façon très artistique et très merveilleuse, sa poitrine bien dessinée. On voit bien que c'est une femme, mais en même temps, elle est un homme. Donc, elle n'a pas besoin d'épouser un homme. Elle est homme et femme. Alors que tout homme, vous voyez, on est nettement plus faible que les femmes, c'est clair, a besoin d'avoir une grande épouse royale.
D'accord. Donc, c'est une femme, je dirais, au-delà de ça, c'est une entité à part entière.
Exactement. Et alors, elle va remplir une fonction complète, c'est-à-dire que elle sera chef de guerre et je dirais plutôt chef de paix.
Chef de
paix,
oui.
Déjà, c'est fabuleux. Vous savez, le Proche-Orient ancien, depuis la préhistoire, entre les Libyens, les Syriens, ce que va devenir ensuite la Palestine, plus tard, il y a toujours eu des conflits tout à fait incroyables. Et l'Égypte a toujours été en conflit avec les Syriens, avec...
Pour les invasions, pour la dispute déjà des territoires.
Absolument, absolument. Et donc la notion de frontière a toujours été évidemment capitale. Si vous regardez bien le pays, il faut une frontière au nord pour le couloir syro-palestinien, il faut une frontière à l'ouest pour la Libye, il faut une frontière à l'est pour les ce qu'on appelle les coureurs des sables qui deviendra l'Arabie Saoudite plus tard, et une frontière au sud pour les Nubiens. Donc tout ça est gardé. Hatshepsut va être un roi, on va dire ça comme ça, extrêmement ferme, mais également très diplomate. Et pendant tout son règne, pas de conflit, pas de guerre. Avec cependant une obsession, et j'en parle évidemment beaucoup dans le livre, c'est que deux ou trois siècles plus tôt, l'Égypte a été occupée, on l'oublie toujours, par une invasion de peuples qui venaient justement d'un peu partout, qu'on a appelé les Hyksos, et qui ont occupé tout le nord de l'Égypte, tout le delta, si vous voulez, la région du Caire et au nord du Caire. Et ça, ça reste gravé dans la mémoire des Égyptiens parce que c'est la première fois depuis deux millénaires que leur pays est envahi, est occupé. Ils se disent donc on n'est plus invulnérable. Et Hatshepsut va être très ferme là-dessus et elle va avoir à démonter, d'abord à être très ferme par rapport aux frontières et par rapport aux armées qu'elle va bien diriger, mais aussi à un problème de contestation intérieure, de complot intérieur, ce qui est toujours en général le plus grave d'ailleurs, hein. C'est les choses les plus difficiles. Il y a un parti pro-Hyksos, puisqu'on les appelait comme ça, qui la menace et qu'elle va réussir, bon, enfin je raconte pas toute l'histoire,
elle va le
démanteler.
On n'aura plus rien à lire, en tout cas les auditrices auditeurs n'auront plus rien à lire. Mais en tout cas, oui, c'est passionnant. Alors, moi, cette femme-là aussi, est-ce qu'on peut dire, Christian-Jacques, que c'est aussi une bâtisseuse?
Ah oui.
Ah oui.
Voilà, ça c'est extrêmement important.
Et oui, c'est pour
ça. Vous avez raison de souligner ce point-là. Et il faut le souligner dans deux domaines. D'abord, son père a eu une idée de génie, on va dire, qui est de se dire, bon, autrefois, les rois étaient enterrés près du Caire actuel, on va dire de Memphis, l'ancienne capitale, et vous aviez cette immense nécropole de Saqqara, où il y a la fameuse pyramide à degrés et bien d'autres. Et puis, lui, puisque c'est une nouvelle dynastie, il va dire à nouvelle dynastie, nouveau site pour enterrer les rois. Et il va choisir un lieu sur la rive ouest de Thèbes. On peut quand même dire, oui, je crois dire que c'est le plus grand site archéologique du monde, si on comprend la rive ouest avec les temples de Karnak et Louxor. Et là, je vous parle de la vallée des rois. Donc, Thoutmôsis Ier va inaugurer la vallée des rois. Mais en fait, on est presque sûr aujourd'hui que lui l'a inauguré, j'allais dire en esprit, mais que c'est Hatshepsut qui a fait creuser la première tombe de la vallée des rois, et une tombe extraordinaire qui se trouve creusée dans une falaise. Alors, il faut déjà y arriver. Figurez-vous que c'est Howard Carter, le découvreur de la tombe de Toutankhamon, qui a été l'un des premiers explorateurs de cette tombe. C'est incroyable, ce bonhomme, ce qu'il a trouvé. Et il a parcouru un couloir d'une centaine de mètres de long qui aboutit à une pièce absolument superbe. Et là, il y avait le sarcophage d'Hatshepsut. Alors ça, c'est son posé, créatrice d'un site fabuleux, hein, qui va ensuite être occupé par tous les grands rois. Elle crée donc quelque chose d'incroyable, et elle va créer un temple complètement unique, complètement à part. Le fameux temple de Der El-Bahari, qui en égyptien se dit Djezer Djezerou. Alors on peut traduire la merveille des merveilles ou le sacré parmi les sacrés. Bon, c'était un temple incroyable, unique, puisque il est composé de trois terrasses qui montent vers la falaise. Et alors aujourd'hui, quand on va le visiter, il a été d'ailleurs extrêmement restauré, hein, puisque il est tombé en ruine au cours des siècles. Et depuis, ça fait bien 150 ans de travail des archéologues pour remonter des pierres, pour remettre les terrasses en état, pour pouvoir maintenant le visiter presque entièrement. Et vous aviez autrefois, devant ce temple, des jardins admirables avec des arbres en sang. Vous aviez également des bassins.
Les jardins de Babylone.
Voilà, un peu ça, vous avez raison de faire la comparaison. Et ensuite, vous grimpiez par une rampe, et sur chaque terrasse, vous aviez des thèmes particuliers qui ont été fondamentalement utiles pour écrire ce roman, puisque vous avez le grand voyage qu'elle a fait au merveilleux pays de Punt, vous avez les deux obélisques qu'elle a fait venir d'Assouan, vous avez les mystères d'Osiris, vous avez sa rencontre avec Anubis et l'au-delà, et tout au bout de cet extraordinaire parcours, vous avez une grande chapelle avec la déesse Hathor, vous savez, représentée sous la forme d'une vache, qui est la vache céleste, en réalité, et sa rencontre avec le dieu secret Amon. Donc, toute la vie spirituelle, les événements de la vie d'Hatshepsut, elle les a marqués, elle les a inscrits dans ce temple fabuleux.
Alors aussi, une chose très importante dans sa vie, c'est l'alchimie. Je dirais que c'était un petit peu le fer de lance aussi de sa vie.
Oui, alors, vous avez tout à fait raison de souligner ça, et ça lui vient de son père.
De son père, oui.
Son père lui a dit, tu sauras régner lorsque tu sauras transformer l'or en or.
En or, oui.
Et cette phrase va l'obséder tout au long de sa vie. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Bon, l'alchimie, pour nous, c'est transformer le plomb en or,
tout à fait.
Voilà. Alors, pourquoi en Égypte on parle de l'orge? Alors, c'est assez simple. Bon, Je pense que tout le monde a vu un champ de blé, un champ d'orge.
J'espère,
Les épis, hein, oui, c'est de l'or.
Bien sûr.
Hein. Bon. Et seulement pour un Égyptien, ça a une signification très particulière, c'est quand on fait les semailles, donc on met le grain en terre, et vous savez, cette fameuse parabole, si le grain ne meurt, etc. Donc le grain, c'est Osiris.
Oui.
Donc Osiris va mourir, il a été assassiné par son frère Seth, et c'est l'introduction de la mort. D'ailleurs, les Égyptiens avaient une phrase tout à fait extraordinaire. Ils disaient « Toute mort est un assassinat
en
fait. ».
Oui.
On nous supprime la vie.
Et oui.
Là, il y a un assassinat.
C'est pas faux.
Et il faut. Alors, est-ce qu'il est possible de réparer ça? Alors, les mystères osiriens disent que oui. Il faut que le grain qui est mis en terre donc meure. Et si on fait en quelque sorte les rites nécessaires, si on a la science nécessaire. Alors vous savez, ils passaient des jours entiers à faire ces rites osiriens dans les grands temples de Philae, d'Edfou, enfin tout ce qu'on connaît.
Oui.
Et l'histoire, c'était qu'on vérifie si ça avait bien marché, quoi. Alors ils fabriquaient en fait une sorte de petite statuette dans laquelle ils mettaient du grain à germer. Et puis, évidemment, ils mettaient également des aromates, des encens, des parfums. Alors, on fabriquait tout ça. Et puis, au bout d'un certain nombre de jours, on voyait les épis d'orge qui sortaient de la momie osirienne. Et là, l'orge était transformée en or. Donc, c'est vraiment l'alchimie à son origine.
Ah oui, oui.
Et,
c'est très beau, même. Je trouve que c'est très beau.
Le père d'Hatshepsut lui a enseigné, lui a appris, c'est que il fallait qu'elle fasse ça pour son peuple, pour son pays. Il fallait qu'elle prenne à chaque fois, au fond, qu'est-ce que c'est cette idée? C'est de dire, voilà, on prend quelque chose qui paraît mort, on prend un matériau qui est le matériau humain qui n'est pas toujours très brillant, hein, on prend le matériau social où il y a des tas de problèmes, il faut transformer tout ça en or, c'est-à-dire, au fond, réussir à créer de l'harmonie, réussir à créer de l'amour, réussir à créer du bonheur. Et c'est ça le rôle d'un pharaon. Un pharaon, alors il n'était pas élu démocratiquement comme dans nos pays, mais il y a une phrase qui est magnifique, c'est on dit, un pharaon ne peut pas régner s'il n'est pas aimé.
S'il n'est pas aimé, oui.
Et je crois que c'est très important, ça.
Oui, je pense que certains de nos dirigeants en seraient jaloux, en tout cas peuvent être envieux de cette belle phrase. Vous savez, tout grand texte, toute grande lecture, en ce qui me concerne en tout cas, amène la réflexion. Et moi, votre livre m'a amené plusieurs réflexions et surtout une. Je me suis dit finalement, nous qui nous voulons modernes, qui avons l'impression d'avoir tout créé, tout construit, tout inventé, j'ai eu l'impression qu'on était tout petit face à cette Égypte formidablement moderne, inventive, créative et face à cette femme extraordinaire.
Je dois vous avouer que je partage votre sentiment. Et vous me rappelez un texte qui n'est pas égyptien, mais qui est de l'époque du Moyen-Âge, au moment de la création des grandes cathédrales.
Ouais.
Et il y a un auteur, pardonnez-moi, j'ai oublié son nom, mais qui a écrit un texte assez fameux qui dit « Nous sommes des nains sur les épaules des géants ». Et je dois dire que quand je travaille évidemment tous les jours sur ma chère Égypte, je me dis, effectivement, parfois, on est quand même assez petit. Et je prendrais plein de domaines. Je dois dire que je préfère quand même le temple de Karnak et Luxor autour de la défense, par exemple.
Ah bah oui, ça, c'est sûr. Bien sûr.
En médecine, c'est tout à fait incroyable, la médecine. Si on travaille un petit peu sur les remèdes, sur la pharmacopée, mais enfin, ils avaient déjà inventé l'aspirine, par exemple. Ils avaient inventé les antibiotiques. Donc, on n'a pas inventé tout ça. Vous savez, moi, je ne crois plus à la notion de progrès indéfini, en disant, voilà, ces gens-là, c'était des primitifs, et nous sommes évidemment très évolués, très savants, très intelligents. Je ne crois plus à ça. Je pense qu'il y a comme un mouvement spiralé ou ondulatoire, c'est-à-dire qu'il y a des grands moments de l'histoire de l'humanité, puis d'autres un peu moins grands. Et qu'à certains moments, pour moi, ce qui est extraordinaire en Égypte, c'est que je trouve qu'il y a une cohérence entre le pouvoir, entre la spiritualité, entre la société, entre la vie quotidienne, entre la beauté et l'harmonie des jours et des nuits, si j'ose dire. Il y a là un ensemble qui est totalement cohérent. Et je trouve que de nos jours, nous sommes dans une certaine incohérence. Il y a des points. Ah ben c'est sûr, les Égyptiens n'avaient pas d'avion à réaction, ça c'est clair.
Oui, ça, bien sûr.
Peut-être
sûr.
Évidemment,
ni le train.
Aujourd'hui, meilleur qu'un dentiste de l'Égypte ancienne.
Bien sûr.
Ok, tout ça c'est vrai.
C'est vrai.
Mais dans d'autres domaines, je ne sais pas si on n'est pas dans une grande crise des valeurs, du spirituel, du social, et malheureusement, je crois. Enfin, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour écouter les informations tous les jours et se rendre compte que la cohérence, elle n'est plus tout à fait là. Donc l'Égypte a beaucoup à nous apprendre, oui, je pense là-dessus.
Mais vous me faites penser à ce texte sur les grandes cathédrales. Quand vous lisez Ken Follett sur les piliers de la terre, la façon dont il parle des cathédrales, on se sent, voilà, on se dit, je ne dis pas que j'ai l'assimile, mais c'est vrai que ces grandes choses sur nos épaules, on est tout petit, écrasé par ces choses immenses.
Voilà. Alors, si vous savez, ça me rappelle quand on parle d'Hatshepsut ou des pyramides, à chaque fois que je suis sur ces sites, alors là, vous vous sentez vraiment tout petit.
Mais oui.
Vous vous dites, mais comment ils ont fait,
Est-ce qu'on le sait aujourd'hui vraiment comment se sont construits? Parce que moi, j'adore écouter les documentaires sur la construction des pyramides, sur l'Égypte. À chaque fois, ça me passionne, je cours ou j'enregistre ou je regarde en replay en fait, tout ce que je peux avaler sur le sujet, bien évidemment. Mais aujourd'hui, vraiment, sait-on vraiment comment se sont construits les pyramides, Christian Jacques? Je profite de vous avoir au bout du fil pour vous poser la question.
Alors, on a beaucoup progressé, c'est-à-dire, je peux vous raconter l'histoire des bâtisseurs de pyramides.
Ouais.
Je peux vous donner les noms des chefs d'équipe. Je peux vous donner les noms des maîtres d'œuvre.
Ouais.
Je peux vous dire comment ils ont véhiculé les pierres depuis, par exemple, le granit. Hein, on va chercher du granit à souvent à 800
km
de Gizeh.
Oui.
Hein,
Mais ça, c'est pas un problème.
Donc, ce qu'a fait Hatshepsut, d'ailleurs.
Hatshepsut
a également été chercher des obélisques taillés dans le granit. Alors, on sait qu'avec un certain type de bateau, on sait à peu près comment ils ont extrait les obélisques, etc. Tout ça, on commence à avoir des notions importantes. On sait aussi, je crois que la fameuse théorie de la rampe interne aux pyramides, il me paraît tout à fait sensée.
Et qui tourne un petit peu en spirale.
Bon, ça, je crois qu'on tient quelque chose de sérieux. Maintenant, il reste un problème qui n'est pas du tout résolu. C'est le levage de monolithes de plusieurs dizaines de tonnes.
Ouais.
Non, ça, je ne peux pas vous répondre là-dessus, car là, on n'a pas de documents, et on ne sait pas. Il y a encore des recherches passionnantes à faire sur ce terrain.
Ouais. Et on se pose d'autant plus la question que, bien sûr, après, ça a été des millénaires, mais d'autres choses se sont construites par la suite, ou même en France, on pense aux grandes cathédrales, etc. Donc, les hommes ont pu faire des choses. Donc, est-ce qu'on peut pas se dire que, ils se sont inspirés peut-être du modèle égyptien, mais comme on ne sait pas tout, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que c'est passionnant.
Il est absolument indéniable que les bâtisseurs de cathédrales se sont beaucoup inspirés du modèle égyptien. D'ailleurs, avec une raison historique très simple, c'est quand l'Égypte antique est morte, alors elle est morte en 1000 ans, hein, ça a été une longue agonie, mais quand il y a eu l'invasion musulmane au 7e siècle après Jésus-Christ, le temple de Philae était encore en fonctionnement, et les derniers prêtres égyptiens sont partis en Europe. Et on a des textes d'ailleurs médiévaux, et ils ont été à l'origine de la règle de Saint-Benoît, d'où sont issus les bâtisseurs de cathédrales.
Tout
Donc il y a une filiation qui est de ce côté-là tout à fait nette.
Alors, cette femme, Hatshepsut, tout au long du livre, on voit ce miracle de sa vie, parce qu'elle fait des choses extraordinaires, mais à chaque fois, je vous le dis, quand vous écrivez sur ces reines, sur ces pharaons, enfin, sur ces reines royales, ces maîtresses royales aussi, ce sont des femmes terriblement modernes. Et moi, ce que j'apprécie aussi, et notamment avec cette femme-là, c'est que, vous le disiez un petit peu à l'entrée de notre discussion, c'est qu'il y a une forme de parité et que les femmes ont une place très importante que nous n'avons pas forcément en Occident.
Ben, écoutez, oui, je pense que c'est une valeur qui a été perdu assez longtemps, qu'on contente de reconquérir, mais dès le départ de l'Égypte ancienne, vous avez en effet, si on prend les grandes mythologies, le créateur s'appelle par exemple Il et Elle.
Oui, Yel.
C'est quand même stupéfiant.
Bon.
Et effectivement, vous avez tout de suite une reine pharaon qui s'appelle Mère Neit, qui a toutes les prérogatives royales, ça ne leur a posé aucun problème. Mmh. Et puis alors, dans la vie quotidienne, c'est très important. Les Égyptiens divorçaient assez peu, en réalité. Mais quand il y avait un divorce, la femme, automatiquement, a un tiers des biens du mari. Et si jamais il est prouvé que le mari, en plus, a fait une faute, un adultère ou a été malhonnête, etc., ben là, elle recouvre la totalité. Mmh. Donc, il y a aucun problème. Vous avez des femmes médecins, vous avez des chefs des médecins même, vous avez eu des femmes premiers ministres, des femmes pharaons. Donc, tout ça ne pose aucun problème à la civilisation de l'Égypte ancienne. Mmh. Et alors, évidemment, ce qui s'est passé, alors là, j'accuse directement les Grecs. Car quand les Grecs sont arrivés en Égypte et que les Ptolémées donc, ont régné, alors ils ont appliqué les lois grecques, c'est-à-dire qu'une femme est un enfant, juridiquement. Mm-hmm. Elle ne peut faire aucun acte sans un tuteur masculin. Et il y a eu une révolte des femmes égyptiennes à cette époque, mais révolte qui n'a rien donné, parce que les pharaons grecs avaient la police et l'armée. Dans ces cas-là, on est obligé de s'incliner. Et là, il y a eu un profond changement de civilisation, mm-hmm. et qui n'a pas été... complètement rétabli depuis, alors pas totalement en Occident, et puis alors au-delà de l'Occident, n'en parlons pas, là c'est encore beaucoup plus difficile.
Oui. Pour nos auditrices, auditeurs qui souhaiteraient se rendre en Égypte, dont je suis, parce que ça fait des années que je souhaite y aller, est-ce qu'on peut y aller en toute tranquillité aujourd'hui? À part le Covid, évidemment, le monde est un peu fermé, mais au-delà de ça, est-ce
alors, effectivement, il faut que vous signaliez déjà le Covid avec toutes les exigences sanitaires que l'on
bien
peut
sûr,
avoir.
Voilà. Voilà. Mais au niveau sécurité, sinon au niveau sécurité propre du pays.
Voilà. Pour le reste, les grands sites sont sécurisés. C'est-à-dire que vous avez, évidemment, je pourrais vous parler de tous mes voyages pendant lesquels j'allais dans les campagnes, avec les paysans dans les sites les plus reculés. Bon, ça, c'est plus possible aujourd'hui parce qu'il y a des endroits évidemment dangereux.
Bien sûr.
Bon, les grands sites, le plateau des pyramides, Karnak,
le Caire, etc., tout ça.
Oui, c'est sécurisé et il y a relativement peu de monde. Donc oui, c'est pas le plus mauvais moment pour y aller.
D'accord. En tout cas, c'est un film. Vous voyez, un film. C'est lapsus révélateur. C'est un livre magnifique que vous nous offrez sur Hatshepsut, la femme d'or aux éditions XO. Ça a été un magnifique voyage encore de vous rencontrer, de vous écouter. Moi, je vous écouterai pendant des heures, 30 minutes. C'est trop court. Mais rapidement, votre prochain ouvrage, ce sera sur qui, sur quoi? Dites-nous, faites-nous rêver.
Alors, je vais me plonger, je pense, parce que vous savez comment je travaille, hein, j'ai toujours plein de projets, puis alors il y a un matin, tout à coup, il y a celui-là qui s'impose, alors, il y en a un qui est en train de me trotter
dans germer,
la tête,
oui.
Voilà, qui sera un ouvrage sur l'aventure assez extraordinaire d'un personnage à une époque encore un peu plus ancienne, qui sera presque, comme on dit aujourd'hui, un thriller.
D'accord, voilà. Bon. Bon, on vous retrouve dans un an et demi alors.
Écoutez, avec grande joie.
Merci beaucoup. La femme d'or aux éditions XO sur Hatshepsut, La vie miraculeuse, c'était avec Christian Jacques. Merci infiniment et à une prochaine fois. Et prenez soin de vous, Christian Jacques.
Merci beaucoup. Et vous de même, vos auditeurs également.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Quant à nous, nous nous retrouvons pour une prochaine émission, pour un prochain voyage littéraire. En attendant, prenez soin de vous. Merci, au revoir et à bientôt.